1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, on est ensemble pendant 2 heures, vous le savez, c'est une émission quotidienne pour faire le tour de la question avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Et un sujet de préoccupation pour les petits comme pour les grands, d'ailleurs les dangers des écrans. Alors que le gouvernement veut mieux lutter contre le cyberharcèlement, les propos haineux sur internet, grand plan présenté hier, les spécialistes de la petite enfance et de l'adolescence s'inquiètent aussi sur les dangers d'une surexposition et d'une addiction aux écrans. Certains considèrent que donner très tôt des écrans aux enfants, c'est comme leur donner un peu de cocaïne, c'est dire l'addiction qui peut s'engager. Alors, doit-on aller si loin justement dans cette interdiction des écrans? À partir de quel âge notamment? Nous en parlons. Si vous êtes parents, n'hésitez pas à réagir. Le standard est ouvert.
Le 39-21.
Et puis à 10h, on s'intéresse à ce phénomène. Le nombre de dauphins échoués sur les côtes françaises, 400 d'entre eux retrouvés sur la côte atlantique depuis un mois, c'est un triste record. Ces 15 derniers jours seulement, une centaine de dauphins est venue mourir le long du golfe de Gascogne. Comment expliquer ce phénomène meurtrier, quelle responsabilité notamment des pêcheurs et l'État dans tout ça? On fait là encore le tour du sujet jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec le gouvernement à l'action pour mieux encadrer l'usage d'internet, on va vous en donner un peu les modes d'emploi et on va entendre des spécialistes sur le sujet. Justine Atlan est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'association e-enfance, association de protection de l'enfance sur internet, spécialiste du cyberharcèlement. Vous étiez aux côtés des ministres Marlène Schiappa et Mounir Majoubi hier, on va en parler. Avec nous également la pédiatre et praticienne attachée à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, Sylvie Dieu-Osica. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également membre d'un collectif, collectif surexposition écran, et vous allez nous dire justement comment mieux protéger à la fois les enfants mais aussi les adolescents. J'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur cette actualité dont Mounir Majoubi reparlera largement en public ce soir dans l'émission de Mathieu Béliard. L'idée est évidemment d'essayer de responsabiliser aussi les géants du numérique sur cette forme addictive. Alors ça, c'est la cosmétique, Justine Atlan.
Oui, alors sur cette part addictive, je ne sais pas si le gouvernement a l'ambition de demander aux acteurs du numérique de se réguler parce que c'est structurel chez eux. Ça fait partie du modèle hein, de leur outil. C'est des entrepreneurs qui ont construit des outils en cherchant, en fait, et ça va rejoindre sans doute le sujet tout à l'heure, à accaparer notre temps. Mmh. Ce qui a le plus de valeur pour eux, c'est le temps qu'on va passer sur ces outils et donc leur but est de nous faire y revenir le plus souvent possible. Donc ça, c'est vrai que si on touche à ce modèle-là, c'est un peu compliqué. Là, ce que le gouvernement essaie de leur demander, c'est en tout cas qu'ils soient plus impliqués, plus responsabilisés dans déjà une obligation qu'ils ont, c'est-à-dire de faire retirer très rapidement des contenus illégaux, illicites en France, donc en l'occurrence des propos haineux qui peuvent être utilisés dans des cas de cyberharcèlement, mais pas toujours. Il y a du cyberharcèlement qui ne contient pas ces propos racistes, antisémites, homophobes, et c'est de les impliquer un peu plus en leur demandant un délai de retrait. Par exemple, ils vont sans doute avoir un délai de retrait de 24 heures qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
D'accord,
pour retirer ces contenus-là quand ils sont signalés. Et voilà, donc on va être en train de rentrer dans des obligations de moyens, alors que pour l'instant, ils n'avaient que des obligations de résultat.
D'accord,
fait.
Mais je reviens sur leur responsabilité par rapport à notre exposition, voire surexposition. Ils sont en train d'intégrer des petits logiciels, Google avec son modèle Android, et puis Apple également, notamment sur un tableau de bord qui fournit, vous devez être au courant, c'est le vidéo aussi, des statistiques d'usage, durée des applications. Voilà, vous avez passé tant d'heures sur votre téléphone cette semaine. C'est censé quand même nous donner une indication. Et là, Je parle aux adultes aussi. Hein.
Oui, enfin, moi, je vais surtout parler des enfants et de la défense des enfants et des familles.
Oui.
On se retrouve, je pense que justement, par rapport à l'adolescence, si on prévient les choses bien plutôt en amont, mm-hmm. et si on éduque les familles et si on leur apprend exactement ce qui se passe, les choses se passeront évidemment beaucoup mieux. Hein. Les enfants tout petits, moins de 3 ans, sont exposés aux écrans. Moi, je le vois tous les jours. Je suis une pédiatre de terrain. Je vois des enfants quotidiennement et je vois des situations qui sont impressionnantes et qui nécessitent vraiment qu'on prévienne les familles pour que justement ces futurs enfants, grands-enfants, adolescents ne se retrouvent pas dans des addictions. Parce que si on prépare les choses comme bien manger, hein, c'est un peu la même idée, apprendre à bien manger, apprendre à bien utiliser l'internet, les écrans, ça sera absolument important pour l'avenir de ces enfants.
Bien sûr, mais pourquoi vous voyez des enfants qui arrivent à la crèche avec sur leur petit genou un téléphone portable dans la poussette? C'est parce que aussi nous, parents, nous sommes responsables.
C'est la première question à se poser.
Le modèle adulte, et là en l'occurrence toute la famille est concernée. Je pense que vous avez discuté avec les ministres et qu'ils sont quand même conscients de l'ampleur du phénomène.
Oui, c'est vrai qu'on a nos décharges à tous, ne nous accablons pas. Ces outils numériques ont fait irruption dans nos vies il y a très peu de temps, en fait, il y a 15-20 ans.
Il faut qu'on les maîtrise.
15 ans, à vrai dire, 10 ans, même le smartphone, c'est il y a une dizaine d'années. C'est arrivé en même temps, d'ailleurs, que les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui a fait flamber tout d'un coup. Et du coup, les enfants et les ados ont découvert en même temps que leurs parents, en fait, ces outils-là. Donc, c'est une des premières fois, un peu dans l'humanité, que les usages ont été découverts en même temps par toutes les générations en même temps. Donc, effectivement, on n'est absolument pas aujourd'hui dans une logique de transmission, qui est une des bases de l'éducation. C'est qu'effectivement, en tant qu'adulte, on transmet à ses enfants des réflexes, des bonnes pratiques, parce qu'on a expérimenté avant et qu'on peut... Là, aujourd'hui, les parents, objectivement, ne sont pas capables de ça. C'est pas de leur faute, c'est normal.
Faut leur apprendre.
Il faut ce qui est rare effectivement dans l'éducation, d'avoir à apprendre de l'extérieur des choses aux parents pour qu'ils les transmettent à leurs enfants. En général, on se nourrit de ce qu'on a pu vivre, on a des repères, les parents n'en ont pas.
Alors on est
dans une bulle, hein, parce que dans 10 ans, les ados d'aujourd'hui vont être parents. Ils seront extrêmement clairvoyants sur les usages numériques, parce que les ados savent très bien quand ils en abusent, savent très bien quand effectivement ils ont des problèmes. Et je pense qu'ils vont être de très bons parents pour les enfants dans 20 ans, parce qu'ils vont leur transmettre très bien effectivement un certain nombre de dérives.
Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un vide. Les ados peut-être, les enfants sont très vulnérables.
Enfants, il faut qu'on réagisse d'ailleurs en tant que soignant, parce que c'est des choses que nous n'avons pas appris moi-même en tant que médecin. Et j'ai été sensibilisée notamment avec Sabine Duflo à cette question. Et ça me semble absolument essentiel justement de redire aux médecins, aux pédiatres, aux différents intervenants, et d'ailleurs aussi dans le monde de l'éducation, ici, ils sont très sensibles parce qu'il y a un gros travail à faire d'apport d'informations. Il faut apprendre aux parents qu'il n'y a pas de retard à acquérir l'objet numérique. C'est absolument essentiel. Les parents souvent me disent « Ah, mais il va être en retard ». Non, avant 2 ans, il n'y a aucun intérêt. Soyons clairs, même avant 3 ans, il apprendra en quelques minutes. Un enfant va aller très vite à l'utilisation.
Et on a envie de vous suivre sur le papier. Mais en moyenne, dans les ménages, on a 6 écrans aujourd'hui.
Oui,
entre la télé, les tablettes, les ordinateurs, etc. Quand vous grandissez, quand vous élevez vos enfants avec ce modèle-là, comment on fait ?
Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Mode d'emploi pour une utilisation raisonnée des écrans » qui est diffusé chez Hatier, édité chez Hatier, les écrans. Parce que la première question, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, se poser la question de soi-même en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on en fait déjà ? Avant même d'être parent et évidemment à la naissance de l'enfant, ce que je fais régulièrement. C'est-à-dire à tel point que je fais une ordonnance pour y réexpliquer et je le lis avec les parents en leur disant « Attention, vous avez un téléphone, regardez votre bébé, ne regardez pas votre téléphone. » Et après, tout ça va s'apprendre parce que on voit des enfants en situation de grandes difficultés dans les apprentissages, dans les troubles du langage. On va probablement
y
revenir.
Et j'aimerais que vous nous donniez aussi des... Alors, il n'y a pas vraiment d'études cliniques, mais il y a quand même des professionnels qui alertent un peu. Il y a des chiffres qui sont donnés par le ministère sur les troubles intellectuels, cognitifs.
Il y a des études. Elles sont valables. Plus nombreuses qu'on le croit. Oui. Encore faut-il bien les lire. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure notre collectif sur exposition écran. Ça s'appelle CAUSE. Vous tapez CAUSE sur n'importe quel moteur de recherche parce que c'est très utile, le numérique. Il y a aussi beaucoup d'avantages. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, vous aurez une bibliographie est tout à fait conséquente et importante, avec des études d'ailleurs encore très récentes, la janvier 2019, qui montrent qu'il y a une corrélation, une causalité entre le temps d'écran passé pour un enfant entre 2 ans, 3 ans et 5 ans, c'est dans le JAMA pédiatrique de 2019, et les effets sur le langage et les apprentissages. Donc les études, elles existent. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et par contre, dernier point important, il me semble, il n'existe pas d'études qui montrent un bénéfice à apprendre sur le numérique quand on est un petit enfant avant 3 ans.
Ça, c'est
essentiel parce que les parents le pensent.
Alors,
pensent qu'ils apprendront mieux.
On va faire une petite pause après, on va avoir le temps d'exposer vos différents arguments pour ne pas se sentir trop culpabilisé au quotidien, Justine Atlan, mais pour responsabiliser quand même les parents, les enfants, les ados aussi, qui nous écoutent éventuellement. Nous avons déjà des appels qui arrivent au standard. Éric d'Épinal, Alban au 3921, n'hésitez pas, on essaie d'échanger avec vous pour vous rendre encore plus clairvoyant sur le sujet. C'est jusqu'à 10h, la surexposition, l'addiction aux écrans et les dangers de ces contenus sur Internet. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 10h, nous parlons des professionnels de l'enfance qui tirent la sonnette d'alarme sur les dangers face aux écrans, pour les petits-enfants en tout cas.
Oui, alors que le gouvernement veut sensibiliser sur le sujet, qu'hier les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Mounir Majoubi ont dévoilé les contours d'un plan d'action en la matière pour mieux lutter contre l'addiction aux écrans, le cyberharcèlement, les propos haineux sur Internet, c'est un tout évidemment. Alors rappelons tous les bénéfices, et vous l'avez fait mesdames d'Internet évidemment, de ces réseaux, Sylvie Dieu, Ozika, pédiatre et praticienne à l'hôpital Jean Verdier, membre du collectif Surexposition Écran, et Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance qui protège l'enfant sur Internet. Bénéfice bien sûr, mais gros danger quand même, notamment sur ces résultats qui nous sont arrivés. C'est un collectif de professionnels qui, dans le monde, il y a quelques semaines, s'inquiète de l'explosion des troubles cognitifs. 24% pour les troubles intellectuels en progression depuis 2010, plus 54% pour les troubles psychiques, les troubles de la parole et du langage. Et je crois qu'Éric, qui nous appelle au standard, voulait témoigner sur ce sujet au 3921. Bonjour Éric.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez d'Épinal. Vous êtes sensibilisé au sujet, manifestement.
Voilà, exactement. Donc, en fait, je suis orthophoniste en libéral. Donc, je suis
orthophoniste, d'accord. Oui.
Voilà, c'est ça. Donc, à beaucoup d'enfants en bas âge. Et je reçois de plus en plus à mon cabinet des enfants de 3 ans, parfois sans langage, qui peuvent présenter, alors je sais que ça fait polémique, parfois des traits autistiques. Hein, on peut parler, on a l'impression que c'est un enfant qui est autiste, qui est dans sa bulle, qui n'a pas d'interaction. Mais en fait, ce sont des enfants qui sont surexposés aux écrans. Parfois, ça peut être jusqu'à 6-7 heures dans la journée, hein, des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Et ça présente, enfin, ces enfants-là présentent un retard en termes de développement en matière de communication qui est très important et c'est de plus en plus courant.
Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont souvent posés devant la télé à la maison ou qui sont occupés avec des tablettes, qui n'ont pas forcément de jeu à la maison. Ouais.
Ouais, je partage
voilà,
tout à
exactement.
Fait.
Essayez, bah, vous parlez du jeu, justement, c'est important, je pense, de parler du jeu. Le jeu sur tablette, l'enfant va actionner son doigt. Un enfant de 2 ans, il a déjà compris comment faire sur une tablette avec son doigt. Par contre, on peut voir des jeux éducatifs maintenant où les enfants ont des tours à construire, hein, des polygones, alors que le faire sur une tablette... Contrairement à le faire justement en pratique avec son parent, hein, le parent qui est avec, qui joue avec l'enfant, qui interagit avec l'enfant, c'est là où le langage se crée, c'est là où l'enfant a un modèle langagier, c'est là où on peut interagir avec lui, lui apprendre des codes de communication comme le tour de rôle, le tour de parole. Il y a plein de choses qui se font.
Et vous, Eric, comme orthophoniste libéral à Épinal depuis plusieurs années, vous avez vraiment vu un phénomène, tendance accélérée depuis combien de temps?
Oui, c'est de plus en plus. Moi, je trouve que ça s'est accéléré vraiment ces deux dernières années, deux, trois dernières années.
Ah oui, chez les tout-petits.
Chez les tout-petits, nous, à notre niveau, on essaie de faire un maximum de prévention avec de l'affichage en salle d'attente. On prend le temps lors des entretiens en début de bilan de bien expliquer aux parents et puis parfois de retracer une journée aussi. Comment ça se passe, à quel moment votre enfant est devant les écrans. Et à la fin de cet échange, parfois quand on leur dit, vous voyez, là, il est 5 heures par jour devant un écran, 7 jours par semaine, ça fait 35 heures. Ça permet aussi des fois de
quantifier, quoi.
Et puis les parents peuvent être interpellés. Hein.
Ouais, Sylvie veut réagir, oui, comme pédiatre.
Oui, Eric, je partage tout à fait.
Terminez votre phrase, Eric, si vous voulez, pardon.
Oui, pardon.
Je partage tout à fait votre constat, et c'est tout à fait ce qu'on voit sur le terrain, justement. C'est à la grosse différence de d'autres personnes qui ne voient pas des enfants, à mon avis, chaque jour. C'est impressionnant, effectivement, je partage complètement. On va rappeler une chose importante, c'est que les enfants sont devant la télé. Je vous rappelle que la télé peut être allumée 24 heures sur 24, il y a des programmes très importants. Il y a donc le téléphone, comme on l'a dit, et la tablette. Et il y a une profusion de programmes absolument folle. Donc les enfants se retrouvent devant les parents eux-mêmes, et c'est là où il y a la problématique de se reposer la question de ce qu'on fait. Et un tout petit enfant, 6 mois, 9 mois, a besoin d'interaction, a besoin de regarder sa maman, a besoin d'échanger. Et c'est comme ça que toutes les choses vont se passer dans leur apprentissage, dans le langage, ainsi de suite. Et s'il y a un écran qui fait écran à ces interactions, ce qui arrive malheureusement très souvent, et les mamans et les papas ne sont pas responsables. Elles sont mal informées et elles se font prendre dans l'histoire parce que dès qu'on retire un téléphone à un enfant dans cette situation-là, il va pleurer. Et faire pleurer son enfant, c'est difficile, culpabilisant, on le redonne et ainsi de suite. Ça peut paraître facile, mais c'est quand même ce qui se passe sur le terrain.
Bien sûr,
et c'est comme ça qu'on se retrouve 6 heures devant les écrans,
Bien sûr, aux parents et aux enfants qui peuvent rester des heures devant les livres, mais pas des heures devant une tablette. Il faut leur apprendre ça, Justine.
Voilà. C'est plus facile d'être devant les écrans pendant des heures.
C'est difficile. Dans la démarche aussi, c'est qu'en fait, on parle des écrans. Donc, comme vous l'avez très bien dit, Wendy, ça date pas du numérique, ça date de la télé déjà.
Les écrans, l'offre de la télé n'est plus la même.
C'est le multimédia. En fait, c'est le multimédia qui a envahi nos vies à nous, et qui fait écran entre nous parents et notre enfant. Ça nous vole du temps d'interaction, d'échange, de communication. Effectivement, l'enfant grandit dans le regard de ses parents, dans le langage, dans l'échange. Il ne faut pas que les gens aient représentation de se dire l'écran en tant qu'outil fait du mal à l'enfant. C'est que le fait que l'écran vienne interférer dans la relation, effectivement, empêche la relation. Et que donc, comme on est des êtres de relation, si on n'a plus de relation, mais effectivement, on ne développe plus de capacité de communication, etc., de langage. Sur effectivement ce qu'on vient de dire sur les jeux, évidemment qu'on ne va pas développer, mais ça paraît évident, la même motricité fine si on ne fait que deux gestes avec un doigt de glisser.
Ce n'est pas évident,
effectivement,
si on ne le dit pas.
Absolument, mais je veux dire, une fois qu'on le dit, ça paraît évident que de saisir avec toute sa main et sa grippe, de saisir un caplat, de saisir effectivement une boîte, de les monter. Alors, on voit bien qu'on n'apprend pas la même chose. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui avec les écrans, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dedans ou cette objet en lui-même. C'est qu'on est tous envahis par un monde où, effectivement, on est tous seuls devant des écrans, même quand on est tous ensemble. On ne se parle plus, on n'échange plus. Et donc, les enfants sont un peu abandonnés.
C'est ça. Et chez les écrans, ça crée des retards de comportement.
Voilà. Bah, du coup,
c'est l'écran ne pose pas de problème en soi. L'écran ne pose pas de problème en soi. Le numérique ne pose pas de problème. C'est ce que l'on en fait, ce qu'en font les familles. Et donc, moi, je vois des enfants comme Eric, l'orthophoniste, qui arrivent avec des retards de langage très importants. À 3 ans, ils ne disent rien. Mais par contre, ils vont vous citer l'alphabet. Ils vont compter en anglais. Et ce sont typiquement des enfants qui ont appris. Et ils n'ont rien appris, en fait. Le mot appris est faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que répéter. C'est des perroquets. Les parents sont très fiers de ça. Ouais. Alors qu'à côté de ça, l'enfant ne parle pas. Ne dit pas un mot. Ouais. 3 mots, 4 mots à 3 ans. Je vous rappelle le langage. Hein, on commence à 2 ans, 18 mois, 2 ans. Donc, ces enfants sont vraiment en situation extrêmement difficile. Et on peut prévenir tout ça, encore une fois, en informant que aux parents qu'ils ne doivent pas exposer leurs enfants avant 2 ans. Donc, eux-mêmes doivent savoir quoi faire de leur objet numérique.
Juste après la pause, je vais vous demander un peu plus de détails sur cela, justement. Pas exposer l'enfant avant 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend ? Il y a des petits manuels, il y a plein de choses, mais aussi la réalité dans les familles. Karine, Marie, Eric sont... je vous remercie, Eric, qui vient de nous appeler d'Épinal, donc. Karine va réagir dans un instant. Beaucoup d'appels, n'hésitez pas. Ma chère Julie, on attend aussi vos témoignages si vous le souhaitez sur les réseaux.
Hein. Sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
A tout de suite avec toi, Janine.
Les dangers de la surexposition aux écrans chez les tout-petits. On en parle avec les invités de Wendy Bouchard, Justine Atlan, qui est directrice de l'association e-enfance, association de protection de l'enfance sur Internet, et spécialiste du cyberharcèlement, et Sylvie Dieuzica, qui est pédiatre en ville à Rosny-sous-Bois et attachée à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Elle est auteure d'un petit livre que toutes les familles devraient avoir chez elles, Les écrans, mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille. C'est aux éditions Attier.
Voilà, raisonner à la fois dans l'exposition et à la fois dans l'exposition au contenu. Un petit mot avec vous, Justine Nathan, puisqu'on parle de cyberharcèlement. Je vous interrogeais pendant la pause. Le cyberharcèlement, les enfants peuvent en être victimes dès l'école primaire aujourd'hui, très clairement.
En fait, les enfants sont victimes de harcèlement. Oui. L'école primaire, oui, même maternelle du reste. Oui. Donc effectivement, maintenant qu'ils ont des usages numériques qui rajeunissent énormément, notamment avec la tablette où les parents n'ont pas l'impression d'offrir un téléphone portable, donc offrent très facilement une tablette à leur enfant. Et leur enfant, une fois qu'il est dedans, c'est un smartphone géant, hein, c'est pas très différent. Et effectivement, peut aller sur des applications que le parent ne va pas identifier comme étant un réseau social. C'est pas la représentation qu'il en a, parce que les parents, pour eux, c'est Facebook, Instagram, Snapchat. Mais il y a d'autres applications comme Musical.ly, qui maintenant a été rachetée par des Chinois, qui s'appelle TikTok, mais qui est très utilisée par notamment les jeunes filles, les petites filles, depuis plusieurs années.
Ça consiste en quoi, TikTok ?
Et en fait, c'est une espèce d'application un peu de karaoké, entre guillemets, où on peut se mettre en scène en train de chanter, danser, on se filme, on se valorise. D'accord. Et on échange sur une plateforme.
Mignon, oui.
Donc c'est très mignon. Alors il y a d'autres questions qui se posent, mais bon, c'est très mignon. Mais effectivement, voilà, Julie, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais
tique sur très mignon.
Ouais. Absolument. Moi aussi, je dis
que c'est
non, parce que alors, on parlait des problèmes pour les enfants. Je pense qu'il y a un problème aussi que les parents, sur lequel les parents doivent être vigilants, c'est qu'ils participent largement aussi à la fascination des enfants pour leurs propres images, par un ultra-narcissisme dès le plus jeune âge, où l'enfant va plus construire effectivement par rapport aux interactions avec les autres qu'il voit, mais dans une fascination lui-même de sa propre image et le retour des autres.
Ouais,
les parents sont fascinés par ça, parce qu'ils sont fascinés de voir les compétences qu'ont leurs enfants de chanter, de danser, une espèce, voilà, des compétences sociales assez
extraordinaires. Mais ça les enferme.
Mais les enfants, ça les enferme, ça les fragilise en réalité énormément, parce que du coup, dans des cas de cyberharcèlement, quand ils ont des retours un peu négatifs, un peu jugeants, parce qu'à l'adolescence, c'est pas très sympa ce qu'on va nous dire, le physique évolue, on n'est peut-être pas comme avant, etc. Ben là, on est complètement dépendant de ça, puisqu'on a grandi dans cette dépendance du retour sur soi à travers ces applications ou ces écrans. Et en fait, les enfants sont très fragilisés par ça, et les ados peuvent aller très mal après ça. Donc il y a aussi une vigilance des parents par rapport à ça, de pas se servir de son enfant comme un objet valorisant. Encore une fois, c'est jamais volontaire, c'est jamais malveillant de leur part, hein. C'est pas le sujet, mais de comprendre effectivement que c'est pas neutre, c'est jamais neutre de mettre un enfant, d'offrir à un enfant sa chaîne YouTube ou d'offrir à un enfant effectivement des comptes sur ce type de plateforme. Ça les enferme encore une fois.
C'est jamais neutre de laisser un écran dans les mains d'un enfant. Je voudrais que vous réagissiez, Sylvie, dans un instant, au témoignage de Waïba. Bonjour Waïba.
Oui, bonjour.
Vous êtes maman et vous êtes maman d'une petite fille qui a quel âge aujourd'hui ?
Elle a 2 ans. Elle a eu 2 ans en novembre.
2 ans en novembre. Et alors, si vous témoignez aujourd'hui, c'est parce que vous avez été confrontée, malgré le très jeune âge de votre petit bout de chou, à un problème d'addiction aux écrans avec elle ?
Tout à fait. Téléphone, plus téléphone et télé.
Mais ça commence à quel âge, Waïba ?
Le truc, c'est que en fait, elle a 2 grandes sœurs.
Oui.
Qui regardaient souvent la télé en mangeant, malheureusement, après l'école, enfin, un peu tout le temps, en fait. Et je pense que son addiction... Enfin, moi, au départ, je n'avais pas du tout fait le rapprochement avec avec la télé ou autre chose, en fait.
Mais vous notiez un changement dans son comportement ?
Oui, bah, plus elle grandissait et plus je voyais que, qu'en fait, elle avait un comportement pas très normal.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, déjà, elle ne parlait pas. Elle avait presque 2 ans, elle ne parlait pas du tout.
D'accord.
Après, papa, maman,
ouais.
Elle ne disait aucun mot.
Oui.
À part moi, qu'elle tolérait, et son père, elle ne tolérait personne d'autre, ni la famille proche, ni personne, en fait.
Donc un peu renfermée ou un peu agressive ?
Très agressive.
Oui.
Très agressive, très renfermée, très introvertie. Enfin, par exemple, elle avait des réactions bizarres, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Par exemple, si on la regardait trop, enfin, si on la regardait dans les yeux, elle se mettait à hurler, elle se frappait le visage, elle se jetait par terre, il fallait pas qu'on la regarde dans les yeux.
Exactement.
On pouvait pas l'embrasser, on pouvait pas, personne, en fait, à part moi, pas de bisous, pas de câlins, personne ne pouvait,
Et quand elle était devant un écran ou devant une télé, elle était calme? Pour le coup ?
Oui, elle était calme. D'ailleurs, elle mangeait, elle avait aussi des troubles alimentaires. Elle ne mangeait pas.
Mmh.
Et je remarquais qu'elle mangeait que quand il y avait la télé.
Ah, c'est incroyable. Ouais, c'était
malheureusement.
Ouais,
du coup, pour qu'elle puisse finir ses assiettes, parce que voilà, elle ne mangeait jamais.
Vous la mettiez
donc,
dans la télé.
Donc, on était obligé de toujours, soit lui tenir un téléphone devant elle pour qu'elle mange, ou la tablette, ou la télé. Sinon, elle ne mangeait pas.
C'est terrible. Parce que, alors, heureusement, vous avez réagi, Waïba, et on va voir comment être votre petite fille aujourd'hui. Et, évidemment, mais je fais une parenthèse tout de suite, parce que vous réagissez en disant c'est très fréquent, Sylvie, comme pédiatre.
Oui,
vous avez
oui
souvent
c'est très
ce
fréquent.
Genre de cas.
On rappelle, la télévision est allumée dès le matin dans les foyers. Hein, encore
dans
une fois,
familles, oui.
Les programmes sont dans beaucoup de familles françaises quand même. Hein. 68% selon l'étude ELF, les enfants, et c'était en 2013, regardent la télé à 2 ans. 68% des enfants chaque jour.
Ah
d'accord,
oui, oui.
Donc comme les programmes sont extrêmement importants, moi j'ai beaucoup d'enfants qui regardent des clips
en boucle,
en boucle, ouais. Qui regardent évidemment des dessins animés, et puis évidemment la tablette. Et effectivement, sur certains enfants, dans certaines situations où maman est plus inquiète, eh ben, on va avoir la tablette ou le téléphone pour mieux manger. Parce que si on est complètement hypnotisé, et c'est
ça,
le mot,
c'est
que les enfants se retrouvent hypnotisés malgré eux, et eh bien du coup ils ouvrent la bouche, ils mangent. Et pendant ce temps-là, les mains elles ne sont pas utilisées. Le langage n'est pas là, l'interaction n'est pas là, et tout ça va. Parce que qu'est-ce que veut faire une maman ? Elle veut nourrir son enfant. Après tout, c'est louable, c'est le rôle de toutes les mamans de se dire, eh ben, je vais bien le faire manger, et du coup,
donc
il va manger.
Occupe, ouais.
Et en fait, on se fait avoir. Les mamans se font avoir, les papas peuvent se faire avoir, et dans d'autres situations, il n'y a pas que le repas qui pose problème, parce qu'après, il y aura le sommeil, il y aura l'endormissement. Il y aura aussi l'utilisation de l'écran pour se calmer. Donc, on va donner un écran, un téléphone, un iPad pour calmer l'enfant, et après, il va apprendre à gérer ses frustrations de cette façon-là.
Alors,
c'est
là,
un réel problème.
Je réagis tout de suite avec vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est grave, docteur, si on laisse juste 3 minutes son enfant devant un petit ours brun à 1 an et demi, 2 ans
c'est toujours pareil. 3 minutes, ce n'est rien, surtout si c'est sur les genoux de papa-maman, si c'est encadré. Et surtout, n'oublions pas, si on fait le lien avec la réalité.
Mmh.
C'est-à-dire... L'enfant n'a pas appris comme nous. Nous, nous avons tous les codes, on a tout appris. D'accord ? Nous arrivons avec... Nos enfants arrivent avec aucun code. Ils se retrouvent devant des écrans multiples et ils ne font pas de lien avec la réalité si nous ne le faisons pas. Donc quand ils regardent Petit Ours Brun, ça ne leur parle pas. C'est comme si, nous, on regardait un film en chinois.
Mmh. Hein,
on s'arrête là, un film en chinois, vous comprenez ? Moi, je ne comprends pas. Donc, eux se retrouvent devant Petit Ours Brun, et s'ils ont 18 mois, s'ils ont 2 ans, voire plus jeunes encore, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ça s'appelle le déficit de transfert, le déficit vidéo. Ça aussi, c'est prouvé. Ça date de 2005 déjà, ces travaux sont déjà anciens. Et un enfant ne peut bien apprendre qu'en 3D. Et s'il regarde donc une tablette en 2D, et si on fait le lien avec la réalité, donc l'écran va faire perdre du temps à la famille et non pas en gagner comme souvent c'est fait, d'accord ? Eh bien, si la maman dit « Regarde, Choupi, il est en train de prendre une salade. Tu te rappelles, dans le jardin de grand-père, on avait été chercher une salade ? » Là, l'enfant fait des connexions.
C'est ça.
Et là, il comprend.
D'où la présence des parents.
Exactement. Mmh. Vous laissez une tablette, vous laissez un téléphone à un enfant tout seul, quel que soit même son âge, parce qu'à 3 ans, ça lui posera aussi problème, encore une fois. Mmh. Il ne va pas apprendre, il ne va pas faire le lien. Et ça, ce sont des choses qui sont... 2005, hein, ces études. Donc, c'est déjà bien connu.
Déjà bien connu.
Et donc, les parents se retrouvent dans des situations comme celle-là.
Ouais, je vais garder Waïba en ligne juste après la pause pour que vous nous disiez comment va votre petite Asia aujourd'hui, qui a donc 2 ans. Karine veut également réagir, ainsi que Rose, qui a décidé vraiment d'interdire les écrans à la maison. Je dirais ce que vous en pensez, Justine Atlan. À tout de suite sur Europe 1, dans la lutte contre le cyberharcèlement et les dangers de la surexposition des écrans. On vous donne la parole.
Le tour de la question sur les dangers de mettre des enfants face aux écrans. Wendy Bouchard.
Alors là, on parlerait des tout-petits, on va parler des enfants, on va parler des ados, mais parlant des adultes, juste encore une petite parenthèse, Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance, association de protection de l'enfance sur Internet. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle YouTube Kids et qui permet de regarder des programmes pour enfants absolument en boucle. Mais nous, adultes, on est aussi on est soumis, prisonniers de cette
addiction. Oui, on est soumis à ça.
Addiction.
C'est
les séries, par exemple.
On va citer Netflix parce que c'est devenu effectivement un peu un monstre sur ce sujet-là. Mais on est aussi sur Netflix dans un système où dès que vous finissez un épisode, on vous dit le prochain dans 3 secondes. Et si vous, c'est à vous, en fait, d'appuyer pour vous en sortir.
Oui.
Mais sinon, naturellement, on va vous proposer l'épisode d'après, qui évidemment s'est terminé à un moment où vous avez très envie de savoir ce qui va se passer.
Oui.
Donc on est nous-mêmes pris dans cette spirale infernale où on nous demande à nous d'aller arrêter quelque chose qui nous donne du plaisir.
C'est
le parallèle de la cocaïne tout à l'heure. Mais du coup, c'est pareil pour les enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'enfant tout seul de s'autoréguler, on ne peut pas lui demander tout seul d'arrêter quelque chose qui lui fait plaisir, ce n'est pas naturel. Donc c'est effectivement à nous parents d'aller mettre un cadre. Le cadre, il vaut mieux mettre avant que pendant ou arrêter brutalement quelque chose. Donc il vaut mieux dire à l'enfant, je te laisse regarder Petit Ours Brun. Mais quand l'épisode sera terminé, le temps, ça ne dit pas grand-chose à l'enfant. Une difficulté à l'appréhender quand il est petit. Mais lui dire quand ça va être fini, on va arrêter et on va faire autre chose. Alors c'est sûr que ça demande aux parents de se dire qu'est-ce qu'on va faire après. Parce qu'arrêter tout seul et s'arrêter dans du vide, ce n'est pas non plus très facile. Donc voilà, il faut proposer. Si on apprend déjà très tôt, comme parents, à se demander avant d'aller dans le numérique ou dans les écrans, combien de temps je veux que mon enfant y soit, qu'est-ce que je propose,
ça permet
petit à petit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on fait rentrer ça dans la maison, on ne se pose aucune question de savoir à quoi ça va servir, qui va l'utiliser, combien de temps, comment. Et alors après, ça provoque une angoisse terrible pour les parents parce qu'on est débordé par quelque chose, on a l'impression à faire rentrer le diable dans la maison et on ne sait plus comment le gérer et c'est très culpabilisant.
Parents, professionnels de santé, professeurs, dans un instant je donne la parole à Karine qui est enseignante à Vincennes et qui a beaucoup à nous dire sur ce sujet-là. Je termine juste avec Waïba si vous voulez bien, Waïba, parce que vous avez réagi, vous avez compris qu'il y avait un problème de comportement chez votre petite fille Asia et vous avez donc fait le lien entre son exposition permanente à la télé notamment et ses petits troubles. Comment va-t-elle aujourd'hui? Est-ce que vous êtes allé voir un pédiatre d'abord?
Oui, j'ai consulté avec une autre. En fait, avant 2 mois, quand j'ai vu qu'elle avait un comportement pas du tout normal pour une enfant de son âge, j'en ai parlé à ma pédiatre. Donc, elle m'a posé tout plein de questions. Et de là, on a fait le lien avec la surexposition des écrans.
Mm-hmm.
Donc, en fait, elle m'a conseillé de tout arrêter pendant un certain temps, pendant quelques semaines.
D'accord.
J'ai vraiment tout arrêté, tablette, téléphone, télé, même pour les adultes. Et au bout de 1 semaine... J'ai commencé à avoir des progrès. Elle a commencé à interagir avec les personnes autour d'elle, commencé à dire des mots. Elle a commencé à parler au bout d'une semaine seulement, sans télé.
Ah oui. Et ça a été comme un sevrage en fait. Hein.
Ah mais totalement,
c'est
totalement.
C'est un sevrage.
Aujourd'hui encore, la télé, c'est le week-end un dessin animé et c'est tout. Il n'y a plus du tout la télé à la maison.
Bah bravo. Ouais. Vous avez bien réagi.
Maintenant, elle parle, elle sourit, elle parle aux gens, elle est sociable, elle dit des phrases.
Donc
c'est impressionnant. Plus de télé à la maison.
Ouais, c'est impressionnant, Waïba, votre témoignage est très positif et vous le constatez, le sevrage
absolument.
Aussi d'ailleurs, chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, c'est la même chose. Hein. Ça peut être radical. Hein.
Il faut d'ailleurs proposer ça. Quand les enfants étaient exposés très tôt, comme ça semble être le cas pour Asia, il faut que ça soit fait de façon radicale, c'est-à-dire qu'on arrête totalement et au moins pendant un mois et on reprend par petites quantités et on soutient beaucoup les parents parce qu'évidemment c'est difficile. Donc il faut les aider dans la parentalité, il faut leur dire qu'il faut sortir dehors déjà. C'est tout bête, mais même en période d'hiver, c'est même plutôt bénéfique et qu'il faut les réaider à jouer avec leurs enfants, à réapprendre, à utiliser ce qui est autour d'eux. Parce que l'enfant aussi est complètement perdu. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en 3-4 jours, ils changent totalement. C'est-à-dire que les enfants se mettent à voir, oh, il y a une poupée, il y a la dinette, donc je vais me remettre à jouer et ils vont reprendre. Alors donc les parents ont très peur qu'ils s'ennuient, mais en fait il faut passer ce cap de 2-3 jours et après ils réutilisent les objets de l'univers qui les entourent. En fait, tout simplement qu'ils ne voyaient plus.
S'il n'y a pas assez de jeux à la maison, s'il n'y a pas assez de livres, en effet, on peut sortir.
Mais c'est pas grave.
Juste
côté. Et puis même s'il y a deux boîtes en carton, on peut jouer. Et ce qui est important, c'est d'oublier cet écran qui parasitait complètement les activités.
Merci Waïba pour ce témoignage et gros bisous à votre petite Asia et à vos autres enfants et bravo pour cette réaction. Karine est avec nous, enseignante à Vincennes. Bonjour Karine.
Oui, bonjour. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas enseignante à Vincennes, j'habite Vincennes.
Ah, pardon.
Je suis enseignante en REP+.
D'accord, où ça ?
Sur la commune de Nanterre.
De Nanterre, voilà. Très bien.
Ouais.
Vous avez donc quel niveau d'enfants ?
Alors
Karine,
j'ai une petite section.
Oui.
Mais en fait en REP+, nous avons également une toute petite section d'enfants qui ont à peine 2 ans.
Ah aussi,
voilà,
d'accord.
Une classe entière d'enfants de 2 ans.
Oui. Et vous témoignez
juste avant la toute petite section.
Vous témoignez sur un sujet auquel vous êtes confrontée au quotidien, Karine, sur cette exposition aux écrans. Vous travaillez avec des écrans
depuis... Oui. Pardon, oui, tout à fait. Alors, je voudrais dire que je suis enseignante depuis 20 ans maintenant et que l'acquisition du langage a toujours été une priorité dans les écoles placées en REP.
Oui.
Puisque, effectivement, la maîtrise du langage est quand même une voie vers la réussite. Donc, on a toujours mis le paquet, comme on peut dire. Nos équipes ont mis le paquet sur l'acquisition du langage. Mm-hmm. Mais les problèmes que l'on rencontre sont différents de ceux d'avant. Avant, on avait une pauvreté du langage. On avait une syntaxe inappropriée, inadaptée. Enfin, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sont plus des problèmes, comme le décrivaient vos personnes qui témoignaient avant, sur des situations de non-langage. Des enfants qui sont totalement étonnés que l'on puisse s'adresser à eux et qui, en retour, ont parfois des comportements soit très agressifs, soit totalement absents. Voilà. Il faut savoir qu'un enfant qui ne parle pas en petite section, c'est assez classique, il n'y a rien de grave. Là, nous parlons d'enfants qui, lorsqu'on s'adresse à eux, ont vraiment soit des grosses angoisses, soit des intolérances, des réactions totalement inappropriées. Ce n'est pas seulement des petits-enfants qui ne parlent pas et qui, malgré tout, comprennent tout ce qu'on peut leur dire.
Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça rejoint aussi ce que prône le gouvernement aujourd'hui. On va parler de l'accompagnement éducatif avec les outils numériques, Justine Atlan, mais il y a cette volonté aujourd'hui pour le gouvernement d'interdire les portables à l'école, au collège et au lycée. Bon, il faudrait peut-être manifestement interdire ça plus tôt, mais c'est une mesure qui va dans le bon sens pour vous, Justine ?
Oui, bien sûr, parce que ça, je pense que c'est ce que votre invité a dit au début, et c'est très important, c'est de rappeler à minima, en fonction des études qu'il a pu avoir, etc., en tout cas à minima, qu'on ne prive son enfant de rien si on retarde l'accès aux écrans. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grosse angoisse aujourd'hui des parents de se dire oh, « mais il va être moins intelligent que les autres ou moins doué plus tard s'il n'a pas accès à ces outils numériques qu'on nous présente comme l'avenir, s'il ne les maîtrise pas suffisamment tôt ». Il faut vraiment effectivement rassurer les parents sur le fait que le fait qu'ils découvrent ça à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, il saura très bien s'en servir, c'est ultra intuitif, même nous, on a appris finalement à l'utiliser à peut-être 40 ans, et on a su l'utiliser très rapidement. Donc on n'enlève absolument rien à un enfant en le laissant apprendre le monde, la ville, la relation à l'autre, sans ça, et il ira après. Donc ça, c'est très important. Donc effectivement, dans ce sens-là, c'est vrai qu'empêcher les enfants d'avoir des tablettes, des téléphones à l'école...
C'est un temps, on va dire, sacré.
C'est un temps un peu sacralisé, effectivement, où on est tous dans une bulle, on est plus sollicité par ces notifications, ces appels, l'idée que peut-être on cherche à nous joindre, mais qu'on n'y arrive pas, et on peut se concentrer sur les apprentissages, parce que l'école, c'est quand même ça, et qu'effectivement, tout ce qui nuit aux apprentissages, la distraction, parce qu'on a des problèmes d'attention, il y a un vrai problème de déficit d'attention des enfants qui est lié à cette sollicitation permanente de renouvellement de l'attrait toutes les un quart d'heure, 20 minutes. Donc les enfants ont du mal à se concentrer, ont du mal à approfondir, ont du mal à se concentrer dans des efforts un peu longs. Enfin, voilà, on le voit aussi dans les apprentissages. Et c'est vrai que voilà, toute cette hyper sollicitation en fait, des écrans nuit effectivement à l'approfondition des connaissances. Donc l'école, alors après l'école est un peu coincée parce qu'elle veut aussi laisser rentrer le numérique.
Mais on va en parler.
Donc voilà, elle a parfois des positions un peu ambivalentes.
Comment on essaie d'inclure le numérique parce qu'il faut bien vivre avec son temps, comme on dit. Sylvie Diozica, vous allez réagir, pédiatre et praticienne. Merci à Karine pour votre intervention. Bravo d'être enseignant depuis 24 ans. C'est que le métier vous colle au cœur. Rose va témoigner dans un instant. Elle élève ses enfants sans écran. Mais alors, comment ça se passe justement à l'école ou comment ça se passera à l'école où il y en a quand même un peu, justement, à vertu pédagogique? On vous attend, ma chère Julie. N'hésitez pas.
Au standard 39-21.
Et nous reprenons notre débat sur les dangers des écrans, hein, pour les tout-petits en particulier.
Et pour les enfants, et pour les ados, et pour les adultes que nous sommes, comment on se responsabilise aussi face à ces écrans et à cette surexposition, alors que nous avons en moyenne à la maison 6 écrans par foyer. Moi, je mets le minuteur de la cuisine en route, nous écrit Marie sur Twitter, hashtag Europe 1 et le tour de la question. 15 minutes, mon garçon est habitué, il file jouer dans sa chambre, et une fois le temps passé, il revient. Voilà, ça fait partie des petites astuces. Dont on parle avec Sylvie Diozica, pédiatre et praticienne. Elle est en cabinet à Rony, elle est à l'hôpital Jean Verdi à Bondy, membre du collectif Surexposition Écran. Justine Atlan est avec nous également, directrice de l'association e-enfance qui protège l'enfance sur Internet, et vous êtes spécialisée dans le cyberharcèlement. Puisqu'on va parler maintenant de la manière dont les outils numériques s'invitent à l'école, j'aimerais que vous nous rappeliez la politique en la matière avant de faire réagir Rose sur ce sujet-là. Parce que il y a un peu un double langage, c'est-à-dire qu'on fait attention à la maison, on met en garde à la maison, et en même temps, On invite ses instruments
oui.
à l'école.
Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'interdiction du portable qui existait déjà en réalité, hein, mais qui a été très fortement rappelée et écrite dans le code de l'éducation maintenant, a été importante parce que je pense qu'elle a permis aux parents de ne plus être les seuls finalement qui encadraient ou qui interdisaient le téléphone. Si l'école le laissait, ben, les parents étaient un peu tout seuls à devoir bloquer ça. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui c'est interdit à l'école et donc moi parent je peux m'asseoir là-dessus en me disant ben voilà je me profite pour dire ben, à la maison aussi on va cadrer etc et tout. Maintenant c'est vrai que l'éducation nationale a eu pas mal de plans de politique d'équipement en numérique, des tableaux interactifs. On a proposé aux élèves de 6e d'être tous équipés en tablettes, etc. Et tout.
Oui.
Ça a été il y a quelques années. Le gouvernement actuel est revenu un peu sur cet équipement systématique de tous les élèves de 6e en tablette parce qu'il n'était pas du tout accompagné. C'est-à-dire on donnait juste un outil.
Bon, ça coûtait cher, mais ça
coûtait cher sur tout le département. Et en l'occurrence, ça n'a servi à rien parce qu'il n'y a eu aucun accompagnement, aucune éducation, ni vis-à-vis des parents, ni vis-à-vis des enfants. Donc ça a été stoppé. Donc il y a plutôt l'idée de responsabiliser un peu, de mettre un peu une espèce de frontières à l'école et de préserver un peu l'école de cet envahissement du numérique qui vient par les élèves avec leur équipement à eux
mais
et
déjà.
Puis effectivement par l'école qui le renforcerait, ce qui serait un peu compliqué. Maintenant, il y a aussi
même si à l'école c'est un exercice collectif d'usage
voilà, alors maintenant c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont très à l'aise avec ces outils-là, qui ont su se les approprier et en faire des vrais outils pédagogiques, mais qui s'intègrent dans un parcours d'éducation global, qui vont être des appuis supplémentaires, une façon de rendre l'enseignement plus ludique, plus interactif effectivement. Et puis comme on le rappelait tout à l'heure, effectivement, ça se fait en classe avec les élèves, les copains, l'enseignant. Enfin voilà, donc en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là pour le coup, l'élève,
pour le coup, il y a un encadrement.
Enfant, on n'est jamais seul, il partage et ça mais, change absolument tout.
Mais il va se retrouver seul, par contre, c'est important, à la maison, et pour certains, et assez souvent. Oui. Et n'oublions pas, il y a la 4G, il y a la Wi-Fi, et donc les enfants se retrouvent sur des contenus qui posent vraiment problème. C'est un sujet, on pourrait parler pendant longtemps, mais c'est important. Ouais. Il faut rappeler quand même que la pornographie, d'accord, tous les sites pornographiques sont accessibles, et donc les enfants, quel que soit leur âge, sans aucun filtre, en France, malheureusement, peuvent accéder à ces images qui sont extrêmement, évidemment, difficiles, la violence, ainsi de suite. Je voudrais rebondir juste une seconde sur Karine, ce qu'elle a dit sur le temps d'écran. Ça me semble tout à fait important d'apprendre aux parents qu'il doit y avoir un début et une fin. Une fin, c'est important. Prévenir l'enfant, prévenir la famille d'utiliser ce système-là. Et que le temps qu'on passe devant un écran n'est pas le même que le temps qu'on va passer à faire autre chose. C'est pour ça que la maman dit « je donne 15 minutes et pas plus ». Ça me semble important. Il ne faut pas non plus couper au milieu. Mais il faut savoir dire que ça se termine. Et c'est important que l'enfant apprenne ça à un temps bien fixé à l'avance. On rappelle que certaines applications comme YouTube Kids, ça ne s'arrête jamais.
C'est sûr,
donc, il est important de ne pas les utiliser.
Franck va réagir dans un instant, directeur d'une école primaire qui nous appelle du Plessis-Trévise. Nous sommes avec Rose en attendant, qui a deux enfants. Bonjour Rose.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge ont vos enfants ?
6 et 1 an.
6 et 1 an. Et donc, vous avez décidé, vous, de bannir les écrans, quels qu'ils soient à la maison ?
Alors, pas tout à fait.
Non, dites-nous.
Avec mon conjoint, on utilise les écrans pour notre travail.
Oui.
Donc, il arrive qu'ils nous voient utiliser notre ordinateur, mais on leur dit qu'ils n'ont pas à être à côté de nous pendant qu'on utilise l'ordinateur, que ce sont des choses d'adultes et puis qu'ils peuvent jouer, voilà.
D'accord. Oui, pardon. Vous appeliez pour un point de vue particulier.
Oui, c'était pour témoigner sur l'expérience que nous avons eue avec mon conjoint quand j'étais enceinte de mon premier enfant.
Oui.
Nous avons assisté à la conférence de Monsieur Michel Desmurget.
Qui est
TV Lobotomie.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Qui est un neurobiologiste, il me semble, enfin, qui a mené
chercheurs.
Des études assez poussées, voilà, chercheur. Et ça, nous, déjà, en tant qu'adultes, beaucoup modifié notre perception de l'usage qu'on avait de la télévision, pour commencer.
Télévision.
Et donc, après cette conférence, on a arrêté de regarder la télévision à la maison. Puisqu'on s'est dit que, puisque j'étais enceinte, il fallait d'abord commencer par nous pour pouvoir ensuite, quand nos enfants seraient là, être capables de modérer l'utilisation de la télévision et des écrans.
Oui.
Et puis en tant qu'adulte, on s'est rendu compte que ça nous faisait, après une période de sevrage importante, ça nous faisait déjà beaucoup de bien. Et je pense que ça a aidé, après dans l'éducation de nos enfants, d'avoir une première prise de conscience consommation en tant qu'adulte.
Oui, c'est intéressant. Oui. Voilà. Simplement, vos enfants seront confrontés, comme tous les enfants du monde, à ces écrans et vous demanderont bientôt, enfin un jour, le plus tard possible, enfin un téléphone, une tablette peut-être. Est-ce que vous avez déjà les réponses ?
Alors, on n'a pas banni totalement les écrans. Enfin, quand mon premier était tout petit, on l'a banni complètement. Mais maintenant qu'il est un petit peu plus grand, il nous arrive par exemple de regarder des retransmissions sportives avec lui. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on n'a pas l'occasion de voir toujours. Mais on le laisse jamais seul devant la télé, comme expliquait votre intervenante auparavant.
C'est ça, exactement. Oui.
On lui explique, quand la publicité arrive, nous éteignons l'écran pour qu'il ne voit pas la publicité. Et voilà, il nous arrive parfois qu'on regarde un tout petit contenu sur notre téléphone, mais c'est toujours avec lui. C'est
toujours encadré, accompagné. Voilà.
Ça s'appelle l'utilisation raisonnée. Vous auriez pu témoigner pour le petit livre qu'a écrit notre invitée, Sylvie Dieu Osica. Les écrans, mode d'emploi aux éditions Attier. Merci de votre témoignage, Rose. Salut à toute la famille. Juste après la pause, nous donnerons la parole à Franck, directeur d'une école primaire, qui veut lui aussi témoigner. A tout de suite avec Julie.
Comment lutter contre l'addiction aux écrans chez les enfants et particulièrement chez les tout-petits? Les conseils des invités de Wendy Bouchard pendant quelques minutes encore sur Europe 1.
Avec tous vos appels, vos témoignages pour éclairer cette actualité alors que le gouvernement veut vraiment agir, responsabiliser les géants du numérique sur les différents dangers liés au contenu. Oui, mais d'abord, nous, parents et nous, adultes, devons comprendre à maîtriser ces outils qui sont finalement intervenus d'une manière assez récente dans nos vies. Alerter sans diaboliser, c'est ce que vous dites, Sylvie Diozica, vous qui êtes pédiatre, très engagée. Mais vous vous faites pointer du doigt en disant quand même que vous diabolisez souvent.
Oui, alors que l'écran en soi n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. On a tous un téléphone. C'est mon cas. Je suis quelqu'un, on va dire, de normal. Et c'est normal d'être entouré du numérique.
Vous avez 5 enfants, vous connaissez aussi
voilà,
le problème.
Et mes enfants ont aussi accès à la télé. Mais tout ça doit être géré, encadré, accompagné, avec des temps précis. Et surtout, surtout, protéger les petits-enfants. Les moins de 2 ans, ça pose vraiment un souci. Ils sont exposés. Et si on n'est pas informé du danger, parce qu'il y a un réel danger, puisqu'il y a un impact du coup sur leurs apprentissages, sur le langage, sur leur comportement, sur leur sommeil.
Oui.
On n'a pas parlé du sommeil, mais c'est absolument essentiel chez les petits comme chez les
grands. Et sur les
petits,
vous montez vraiment au créneau depuis peu de temps parce que...
Oui, moi j'ai été sensibilisée. Alors ça aussi, c'est important en tant que professionnelle de santé. Si on ne me l'avait pas dit, j'aurais mis du temps à ouvrir les yeux. Et donc ça fait 2-3 ans avec Sabine Duflo, psychologue, qui a notamment été beaucoup inspirée à juste titre par l'Académie américaine de pédiatrie qui a déjà depuis longtemps sonné l'alarme en disant attention, il y a un lien probablement avec les troubles des apprentissages, les troubles du langage, des troubles du sommeil, des troubles du comportement. Enfin bref, il y a énormément de symptômes qui peuvent être liés à l'exposition aux écrans. Et c'est quand on pose la question qu'on se rend compte qu'il y a un lien. Effectivement.
Franck est avec nous, Duplessis Trévise, directeur d'une école primaire en banlieue parisienne. Bonjour Franck.
Bonjour Wendy, bonjour aux invités.
Merci beaucoup de venir témoigner et nous apporter votre éclairage de professionnel, voilà, de l'enfance pour le coup.
Alors effectivement, votre émission m'interpelle ce matin. Je l'écoute souvent en travaillant dans mon bureau, parce que je suis déchargé de classe.
Eh ben, merci beaucoup.
Et ce matin, ça tombe complètement dans ce que je suis en train de monter sur l'école avec la ville. On est en train d'organiser une réunion d'information aux familles, parce que j'ai une école primaire, donc maternelle et élémentaire. Je vois les enfants de 3 à 11 ans. Et je constate même des petits qui arrivent avec moins de 3 ans, accompagnés un plus grand, une petite section, moyenne section, et qui ont le portable de maman dans les mains en venant à l'école. C'est assez hallucinant. Le deuxième constat, c'est au niveau des apprentissages, du langage notamment, et des troubles spécifiques de langage plus tard, parce que je vois aussi les enfants en élémentaire, une augmentation exponentielle des problèmes de tout ce qui est apprentissage du langage. Et on va vraiment vers une catastrophe extrêmement importante.
Et donc, vous êtes en train d'organiser une réunion de sensibilisation dans la ville de votre école?
Donc dans mon école, avec la destination des parents de l'école, c'est avec la ville, avec la municipalité, conjointement, on tente une réunion expérimentale peut-être pour généraliser après aux autres écoles de la ville, puisque je ne suis pas la seule, et pour essayer de sensibiliser les parents aux divers risques des écrans, donc le développement de l'enfant, le harcèlement, les suites pénales possibles, parce qu'on commence à voir aussi chez les grands arriver un peu de harcèlement via tous les jeux en ligne où il y a une communication derrière le jeu, en fait. Et les parents ne savent pas. Il n'y a pas cette conscience des parents de danger.
C'est ça. Très, très bonne initiative concrète pour terminer cette émission. 30 secondes pour conclure, mesdames.
Vrai problème de santé publique majeur. La preuve, le terrain le rapporte, ainsi de suite. Donc attention, les enfants de moins de 2 ans, aucun écran, quel qu'il soit, s'il vous plaît, ou gérer pendant 5 minutes.
C'est
et
ça.
Les plus grands, il faut gérer à la fois le temps, le contenu, le moment. Pas avant d'aller à l'école le matin, pas le soir avant de se coucher, pas pendant les repas, on en a parlé tout à l'heure, et pas tout seul aussi dans sa chambre, parce que les contenus ne sont pas gérés.
Et c'est bien d'avoir des vigies aussi, comme les directeurs d'école et
tout
les professeurs.
Je veux dire que nous, on est de plus en plus saisis tous les jours de directeurs d'école, effectivement, qui nous parlent de problèmes qu'ils ont avec ça, la difficulté qu'ils ont à sensibiliser les parents, qui effectivement sont les premiers à équiper et prescripteurs en fait, du numérique auprès de leurs enfants. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique d'intervenir très tôt auprès des enfants pour les sensibiliser à ces risques-là, et un peu à se servir d'eux comme ambassadeurs à la maison pour effectivement envoyer les bons messages aux enfants. On a deux sujets aujourd'hui quand même dans le monde, c'est l'écologie et cet envahissement du numérique. C'est deux sujets fondamentaux. Sur l'écologie, on a réussi à sensibiliser les parents avec les poubelles vertes et jaunes grâce à leurs enfants. Merci. On est en train d'essayer de faire pareil avec l'appui des éducateurs auprès des parents pour le numérique.
Et merci pour vos actions. Merci beaucoup pour vos actions. Sylvie Diozica, Justine Atlan, merci pour vos très nombreux témoignages ce matin. On va parler des dauphins, triste phénomène en ce moment. On en retrouve des centaines sur nos côtes. A tout de suite avec Julie.